So this session, I propose that we start it with a sort of an icebreaker, which is a mini quiz to understand better how environment and decent work and employment issues are interconnected. Then in the second part, I'll go through a few notions of understanding the concepts of decent work, green jobs, and just transition. Then we will go more substantively into the issue of the ecological transition and what are the perspectives for employment, you know, including for those in education at the moment, as well as those in active labor markets. Then we will discuss this idea of ensuring a just transition for all. What does it mean in practical terms? And then I wanted to end with a few examples of what international organizations such as the ILO, the International Labor Organization, and others do. But I would suggest then that we perhaps start with the mini quiz, and I think I'll also go through the presentation in French. I understand that would be preferable to most of the participants. So with that, over to you.
Okay, thank you. Thank you very much, Mustafa. I think we have on the screen, we have slido.com, ILO. So if you can just join for the questions that Kamal is, or Mustafa is asking you. So it's one of the few occasions we can take our phones, at least in my class, officially. So hopefully you can join in. Don't ask me for any advice because I'm the most unsophisticated person when it comes to technology and those kind of tools here. Jessica, are we good? So we see you're joining. And by the way, we use something similar for the last day when you do your presentation. So again, there you can use your telephones. So we have a few more students to join. We have 312, 16. If you want, you can also connect with your friends and family to join in. At least that we will see on the last day when you call friends and family to vote for you. Well, we have suddenly 600 students. We're almost there, Mustafa. We have 360 out of 424. Just give us one more second.
Fantastic.
Okay, I think we just get started now. Over to you, Mustafa, with the questions. Let's go.
Thank you, Stefan. So the first question, je vais peut-être continuer en français. Je pense que c'est ce que vous préférerez. Alors, la première question, c'est juste d'avoir une vue d'ensemble sur le nombre d'emplois qui pourrait être créé d'ici 2030 si l'accord de Paris sur le changement climatique était mis en œuvre. Est-ce que ce serait A, 15 millions d'emplois ou B, 24 millions d'emplois?
I don't know if you can see it, Mustafa. We have 10% saying 15 million, and 90% are talking about 24 million.
Voilà, tout à fait. Je vois que la majorité a donner la bonne réponse. C'est en fait 24 millions d'emplois. Alors, au Bureau international du travail, nous avons mené une étude en 2018 où nous avons testé la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le changement climatique dans le domaine de l'énergie, notamment si les États utilisent beaucoup plus d'énergie renouvelable, si on a beaucoup plus d'efficacité énergétique, notamment dans le bâtiment, et finalement, s'il y a une utilisation plus répandue des véhicules électriques. Donc, on voit que cela pourrait créer à travers le monde 24 millions d'emplois. Par contre, cette étude a également montré que cette transition écologique pourrait causer la perte de 6 millions d'emplois et principalement dans les pays qui vont continuer à dépendre des énergies fossiles comme le pétrole et le gaz, le charbon, donc au Moyen-Orient et dans certains pays africains. C'était la première question. Alors, on pourrait passer à la deuxième. Alors ici, il s'agit d'une question sur l'impact du stress thermique. Alors, juste pour dire que le stress thermique, c'est ce stress que nous cause le réchauffement climatique. On l'a vu récemment avec la vague de chaleur à travers le monde. Et ce stress thermique peut avoir des conséquences négatives sur l'emploi. Et donc, la question ici, c'est est-ce que la productivité, la perte de productivité qu'on pourrait enregistrer s'élèverait à l'équivalent de 20 millions d'emplois A, ou bien B, 80 millions d'emplois.
So we have une perte de productivité équivalent à 20 millions d'emplois, 34%, et la plupart, c'est une perte de productivité équivalent à 80 millions d'emplois, 66%.
Voilà, tout à fait. Je vois encore que la majorité des participants ont donné la bonne réponse. C'est effectivement 80 millions d'emplois à temps équivalent que nous avons estimé. Et donc, en fait, c'est que ce phénomène de réchauffement thermique fait que le corps humain à une certaine température a du mal à travailler. Donc, je vais en revenir sur ma présentation, mais cela signifie en moyenne une perte de 2% de temps de travail, mais qui se chiffre à 80 millions d'emplois. Alors, on va passer à la troisième question. Alors, celle-ci, elle concerne des questions de santé publique, notamment avec le problème de la pollution atmosphérique. Alors, mais il y a aussi beaucoup de questions liées à HIV, SIDA à travers le monde. Et aussi la malaria, qui est une maladie qui commence à se répandre de plus en plus, même dans les pays au nord du globe, en conséquence du réchauffement des températures. Donc, selon vous, lequel des facteurs suivants est responsable de 7 millions de décès prématurés chaque année? S'agit-il A, de HIV-SIDA, B, la malaria, ou 3, la pollution de l'air intérieur.
I think we have a very quick answer here. Pretty much everybody is saying pollution, air pollution, 96%.
Voilà, tout à fait. C'est fantastique. Voilà, c'est la réponse. Hein. C'est en fait ce chiffre de 7 millions de morts silencieuses que nous enregistrons chaque année à cause de l'usage de polluants internes. Donc, il y a, mais figurez-vous que ici, le chiffre dont je fais référence concerne la pollution intérieure, pas celle qui est extérieure à laquelle nous sommes exposés avec la pollution des véhicules notamment, mais ici c'est surtout avec l'utilisation de combustibles de cuisson ou de chauffage qui sont très polluants, notamment dans des pays comme dans des régions comme comme l'Asie du Sud et en Afrique. Donc c'est lorsqu'on y rajoute la pollution externe, donc nous sommes à plus de 15 millions de morts à travers le monde. Alors là, on passe à la question suivante. Alors ici, il s'agit du potentiel de créer des emplois verts et du nombre d'emplois verts qui existent aujourd'hui à travers le monde. Donc, en 2021, lequel des secteurs économiques suivants employait à plus de 12 millions de personnes? S'agit-il A, de la gestion des déchets, B, du recyclage, 3, des énergies renouvelables? Alors, je vois également que la plupart des participants ont donné la bonne réponse, c'est tout à fait les énergies renouvelables. Donc, chaque année, il y a un rapport mondial sur l'état des emplois dans le secteur des énergies renouvelables qui est publié par l'Agence internationale sur les énergies renouvelables et le Bureau international du travail. Et donc, c'est un secteur qui est en croissance permanente et il y a différents corps de métiers, mais nous allons y revenir dans la présentation.
Okay, now we switching to your presentation, Mustafa. And while we're doing this, I just wanted to highlight to everybody, at the end of the presentation, which should be taken around 40 to 45 minutes, if that is correct, or 35 minutes, we'll open for Q&A. So if you have questions, do not hesitate. We will walk around with the microphones to ask direct questions to Mustafa on the thematic that he's addressing. So thank you again, and it's you've got the floor, Mustafa.
Well, thank you, Stefan. I think I'm now showing my screen, and this is the outline of the presentation, as I mentioned in the beginning. So the first part was to just give an idea of the international. Oh, alors je vais retourner au français. Alors, je voulais juste dire quelques mots sur l'Organisation internationale du travail. Alors, comme vous savez, dans le système des Nations unies, il y a une multitude d'agences et d'institutions. Certaines sont ce qu'on appelle des agences spécialisées. C'est le cas de l'Organisation internationale du travail. Il y a aussi l'Organisation mondiale de la santé. Il y a l'organisation qui s'occupe de la protection de la propriété intellectuelle. Donc, ce sont toutes des agences spécialisées, comme on les appelle. Alors, l'OIT a une particularité qui est qu'elle est l'une des premières agences des Nations unies. Donc, elle a été créée en 1919, avant même la création de l'Organisation des Nations unies, l'ONU. Donc, l'OIT a été créée à la suite de la Première Grande Guerre et basée sur cette idée qu'une paix universelle et durable ne peut être établie que si elle est fondée sur la justice sociale. Et donc, cette notion de justice sociale est le mandat principal de l'OIT. Et en termes concrets, hein, la justice sociale, elle est aussi un élément d'inspiration de beaucoup de politiques publiques hein, dans des pays notamment comme la France où la politique sociale est très forte. L'OIT a une structure qui est aussi unique dans le système des Nations unies en cela que c'est une agence tripartite. Donc, dans la plupart des agences des Nations unies, les mandants, ceux qui décident du programme, qui décide du budget de l'organisation, ce sont les représentants des gouvernements. C'est le cas, par exemple, à l'Organisation mondiale de la santé. C'est les ministres de la santé à travers le monde. Mais quand il s'agit de l'OIT, il y a cette structure tripartite qui fait que les mandants sont non seulement les représentants des gouvernements, les ministres en charge du travail, mais aussi les employeurs, le secteur privé et les travailleurs. Donc, ce tripartisme est unique dans le système et ça fait que toutes les décisions que prend l'organisation sont basées sur un consensus qui doit être atteint entre les gouvernements, les syndicats de travailleurs et les syndicats de patronat. L'OIT a aussi cette particularité qu'elle a reçu en 1969 le prix Nobel de la paix. Donc, il y a d'autres agences des Nations Unies qui ont reçu par la suite le prix Nobel de la paix, mais l'OIT, c'est l'une des premières à l'avoir reçu. Alors, je passe à la deuxième partie. Donc, nous allons avoir le temps d'en discuter, mais je pensais qu'il serait utile de vous présenter certaines notions conceptuelles auxquelles vous ferez face dans le futur, mais dans le présent également, à l'interface entre les questions de changement climatique, environnement et emploi. Alors, d'abord, la question du travail décent. Nous cherchons tous un emploi, et un emploi, c'est un emploi qui peut être un emploi rémunéré. C'est le cas comme les gens qui travaillent dans des entreprises, qui sont employés et qui sont rémunérés sur la base de leur travail. C'est mon cas comme fonctionnaire international. Mais l'emploi peut être aussi de l'auto-emploi. Il y a beaucoup de gens qui travaillent eux-mêmes, qui sont avec leur propre patron. Et il y a également le travail non rémunéré. Et donc, ça, c'est une des grandes problématiques du monde en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui sont notamment dans les familles, qui s'occupent des parents, des personnes en difficulté, du bénévolat plus ou moins, mais qui sont des emplois non rémunérés. Mais ce qui est important dans toutes ces modalités de travail, c'est que nous arrivions à ce concept de travail décent. Et cette notion de travail décent, elle est importante parce que le travail, ce n'est pas une matière première. Nous travaillons pour réaliser nos aspirations dans la vie. Vous étudiez, vous avez des aspirations que vous voulez matérialiser à travers une profession. Vous ne le faites pas forcément pour échanger votre temps contre de l'argent, mais vous avez d'autres objectifs. Et donc, la notion de travail décent, elle tourne autour de ces quatre éléments qui sont de garantir d'abord les droits du travail. Il y a une série de conventions internationales du travail qui nous donnent à tous des droits fondamentaux au travail, le droit de ne pas être forcé à travailler. Le travail forcé, par exemple, est banni par des conventions du travail. Le travail des enfants, par exemple. Et donc, tous ces droits auxquels nous avons droit dans le monde du travail. Le deuxième élément, c'est qu'il faut que le travail soit productif et rémunéré. Donc, nous voulons réaliser nos aspirations, mais nous voulons travailler et gagner des revenus dans le cadre de l'emploi salarié qui nous permettent de vivre décemment. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de millions de personnes qui sont dans l'emploi, qui se lèvent tous les matins, qui travaillent, mais qui sont dans la pauvreté. Et donc, ce ne sont pas des emplois productifs. Et donc, il faut que l'emploi soit productif, librement choisi et basé sur l'égalité des chances, notamment en matière de genre. Le troisième élément, c'est que le travail doit nous donner le droit à la protection sociale. Il nous faut avoir tous une couverture de sécurité sociale, la sécurité et la santé au travail. Nous l'avons vu, par exemple, dans le contexte de la COVID-19, tout ce qui était dans des emplois qui avaient une protection sociale pouvait rester à la maison, mais recevoir leur salaire, parce que c'est cela la protection sociale. Mais malheureusement, aujourd'hui, 70% des travailleurs à travers le monde n'ont pas accès à une couverture sociale adéquate ou simplement pas du tout. Et ce qui fait que pendant la COVID, dans beaucoup de pays en développement, les gens ont dû sortir pour travailler parce qu'il fallait travailler au jour le jour pour gagner sa vie. Parce que simplement, il n'y a pas cette couverture sociale, cette protection sociale. Et finalement, le quatrième élément, c'est le dialogue social. Le dialogue social, ça veut dire que les conditions qui déterminent le travail, les modalités dans lesquelles nous travaillons, nous tous, doivent être déterminées dans un dialogue entre le travailleur, son employeur et parfois le gouvernement. Donc, ce ne sont pas simplement les gouvernements qui décident à des conditions de travail sans aucune consultation avec ceux qui sont concernés. Donc, l'idéal, c'est que cela se fasse à travers le dialogue social qui soit aussi inclusif. Alors, je vais passer au deuxième concept qui est le concept de l'emploi vert. Alors, ce qu'on appelle emploi vert, c'est d'abord un travail décent. Et c'est pour ça que j'ai commencé par la notion de travail décent, parce que l'emploi vert, c'est une sous-catégorie, si vous voulez, de l'emploi décent. Mais ce sont des emplois qui, en plus d'avoir les quatre éléments que j'ai énumérés tantôt, contribuent à des objectifs de protection de l'environnement. Donc, ça peut être la réduction de la consommation d'énergie ou l'utilisation des matières premières, donc tout ce qui se fait comme les ingénieurs, les techniciens qui permettent d'avoir une meilleure efficacité énergétique dans le bâtiment ou dans l'industrie, des emplois qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de limiter les déchets et la pollution, ou même de simplement restaurer les écosystèmes. Donc, il y a de plus en plus d'emplois dans ce domaine qui permettent de rétablir les écosystèmes, de maintenir l'écosystème terrestre, maritime, intact et contribuer à la protection de l'environnement de manière générale et de s'adapter au changement climatique. Alors, je vais aller sur une troisième notion qui est également importante et c'est la notion de transition juste. Alors, la notion de transition juste, elle trouve son ancrage récent dans l'accord de Paris sur le changement climatique. Comme vous savez, c'est le principal instrument international aujourd'hui pour lutter contre le changement climatique, donc qui définit les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais l'accord de Paris fait également référence à l'impératif d'une transition juste pour la population active et la création d'emplois décents et de qualité conformément aux priorités de développement définies au niveau national. Alors, ce que cela veut dire, c'est que l'agenda climatique n'est pas simplement une question environnementale. Ce dont les économies nationales, les entreprises et que ce dont nous avons besoin, nous tous, en tant que société, c'est de pouvoir réduire et éliminer les émissions de gaz à effet de serre, mais tout en protégeant l'emploi, en permettant aux entreprises de fonctionner et en permettant aux travailleurs d'avoir des revenus et de protéger leurs emplois. Donc, c'est cette notion de transition qui doit être juste sortir de l'énergie fossile, mais en promouvant des économies qui sont écologiquement durables, qui sont inclusives, créant des possibilités de travail et réduire les inégalités, de sorte que personne ne soit laissé de côté. Donc, principalement, c'est comment, dans la sortie des énergies fossiles, la décarbonation également permet de maximiser les opportunités économiques et sociales, notamment l'innovation au niveau des entreprises, mais également la création d'emplois. Et lorsqu'il y a des risques de perturbations sociales, vous avez vu dans beaucoup de pays, il y a eu des perturbations sociales avec des mesures qui ont augmenté les prix du carburant. Donc, on a vu en France, on a vu dans beaucoup de pays. Donc, ce genre de perturbations sociales, comment faire pour les minimiser? Et donc, c'est une question qui concerne tous les secteurs d'activité économique et également à tous les pays à quelque niveau de développement qu'ils soient. Alors, on va partir maintenant sur la troisième partie qui est un peu plus substantielle. C'est lorsqu'on parle de la transition écologique, de la question des emplois verts, quelles sont les perspectives? Qu'est-ce que cette sortie de l'économie fossile va représenter en termes d'opportunités et défis pour vous autres qui êtes dans le monde de l'éducation et qui allez entrer dans les marchés du travail dans les années qui viennent? Donc, quels sont les secteurs d'activité économique où on pourrait voir plus de possibilités d'emploi? Quels sont les secteurs, les industries dans lesquelles on risque d'avoir moins d'emplois? Qu'est-ce que ça veut dire pour votre formation à vous-même? Qu'est-ce que vous devez chercher à acquérir en termes de compétences et de connaissances pour vous permettre de vous préparer au monde du travail du futur? Alors, je voulais d'abord parler de cette question de la nature et de l'ampleur des impacts que la sortie de l'énergie fossile et l'agenda environnemental signifie de manière générale. Alors, le changement environnemental se présente sous deux formes. Il y a déjà des impacts physiques. L'exemple typique, c'est le changement climatique. Il se manifeste en termes de montée des températures qui conduit au réchauffement et au phénomène de stress thermique dont nous avons parlé plus tôt. Mais il y a aussi la montée des eaux des océans avec la fonte des glaciers qui se transforme en érosion côtière. Donc, on le voit, les inondations, etc. Donc, ce sont des impacts physiques. Et la question, c'est quelles sont les conséquences de ces impacts physiques sur l'emploi et quelles sont les politiques, les mesures que les sociétés doivent prendre pour faire face. Le deuxième aspect, c'est que les politiques que les États prennent ou que les mesures que les entreprises, par exemple l'industrie du tourisme qui fait face à l'érosion côtière, ce que les hôtels font comme mesures pour se protéger, ce sont ce qu'on appelle les mesures de réponse. Donc, ces mesures de réponse vont avoir des conséquences prévues. C'est ce que les États ou les entreprises ou les communautés souhaitent avoir comme effet. Mais il peut y avoir des conséquences inattendues. Donc, j'ai parlé tantôt des mesures qui augmentent les prix du carburant. Quand les États le font, ça fait partie d'une panoplie de mesures de lutte contre le changement climatique et dans une certaine mesure aussi la pollution atmosphérique. Mais une des conséquences inattendues, c'est parfois des révoltes sociales, que les populations n'acceptent pas l'impact sur le panier, sur le pouvoir d'achat, etc. Donc, toute la question, c'est comment faire en sorte qu'il y ait des politiques ambitieuses pour lutter contre le changement climatique, mais s'assurer que les conséquences économiques et sociales ne soient pas désastreuses et que ça cause des perturbations. Donc, je vous ai donné dans le mini-quiz cette question sur le stress thermique. Donc, c'était une illustration des impacts physiques du changement climatique et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence. Mais je vous ai parlé de la productivité, mais il y a aussi un autre élément qui sera de plus en plus important, c'est-à-dire la santé et la sécurité au travail. Donc, nous sommes maintenant dans une situation où de plus en plus, dans certaines régions du monde, il devient pratiquement impossible de travailler à certaines heures de la journée, entre midi et 15 heures. Par exemple, c'est le cas au Moyen-Orient, qu'il s'agisse des Émirats arabes unis, du Qatar ou d'autres pays où il y a de plus en plus de réglementations qui font que les entreprises doivent avoir des pauses entre ces horaires 13h, 15h, où il y a des pics de chaleur. Alors, il faut s'attendre que ce phénomène de réchauffement arrive aussi dans la partie occidentale du globe et que ces vagues de chaleur que nous connaissons en Europe occidentale se multiplient et qu'on arrive à des moments où il faudra trouver une réorganisation des horaires de travail pour que ceux qui sont dans les emplois exposés, notamment à la construction, ne puissent pas travailler à certaines heures de la journée et qu'on ait beaucoup plus de mesures de santé et de sécurité au travail. Ça va s'appliquer aussi dans le monde de l'éducation et à travers les différents secteurs d'activité économique. Alors, j'en viens maintenant à la question des mesures de réponse. Alors, les mesures que les États prennent vont généralement avoir quatre types de conséquences. Certains nouveaux emplois vont être générés dans les énergies renouvelables, par exemple, comme on a vu tout à l'heure, mais d'autres vont être remplacés par d'autres. C'est le cas notamment dans le secteur de l'énergie, mais aussi dans le secteur du transport. Donc, l'objectif des politiques publiques, c'est de passer de plus en plus des voitures individuelles à des modes de transport plus collectifs, qu'il s'agisse du train, du tramway, des bus. Donc, c'est un peu l'un des aspects, mais également changer les combustibles, les modes de fonctionnement des véhicules. Alors, donc, il y aura de plus en plus de changements dans ces corps de métier, dans le transport, dans les énergies et dans le bâtiment. Il y a certains emplois qui seront supprimés, mais sans forcément être remplacés par d'autres. C'est le cas notamment pour la sortie du charbon. Donc, quand les pays vont décider de fermer des centrales à charbon ou de sortir de l'énergie nucléaire, par exemple, comme en France, il y a des politiques, un objectif de long terme de sortie de l'énergie nucléaire. Donc, il se pourrait qu'il y ait des emplois qui soient supprimés sans être forcément remplacés par d'autres. Mais ce qui est plus important, et je voulais insister sur ce point, c'est que tous les métiers et la façon dont l'emploi, le travail se fait, va être alterné. C'est-à-dire que vous soyez ingénieur, que vous soyez un agronome, que vous soyez ingénieur agronome ou que vous soyez dans l'agriculture, que vous soyez expert dans l'industrie manufacturière, nous allons tous devoir travailler en utilisant moins d'énergie et de matériaux. Donc, ça veut dire que la question de la productivité ne sera plus simplement une question de productivité du travail, mais il faudra aussi une productivité dans l'utilisation des ressources. Et donc, ça veut dire que la façon dont nous tous allons travailler dans le futur ne sera pas la même que ce qui s'était dans le passé. Alors, j'ai parlé tantôt des opportunités de création d'emplois. Je vous ai fait un peu état de la question de l'énergie. Mais il y a, en parlant de ces 24 millions d'emplois, mais il y a aussi un changement fondamental qui se passe aujourd'hui dans l'économie. C'est le changement vers une économie circulaire. Et c'est la question de changer nos modes de consommation et de production. Donc, nous avons aujourd'hui une économie où nous achetons des biens et des services, surtout lorsqu'il s'agit des biens que nous consommons, que nous jetons. Et donc, ça fait qu'il y a une inefficience dans l'utilisation des matériaux. L'objectif, c'est de passer à une économie qui soit beaucoup plus circulaire dans la conception des produits, qu'on puisse les recycler de manière plus facile, qu'il s'agisse de votre téléphone portable, de votre ordinateur ou des vêtements que vous portez, qu'on puisse plus facilement les recycler et les remettre dans les processus de production. Donc, nous avons estimé qu'une économie circulaire pourrait générer 78 millions de nouveaux emplois d'ici 2000. En fait, ce chiffre, c'est 2030, ce n'est pas 2023. Donc, d'ici 2030, il y a cette possibilité de créer de nouveaux emplois dans l'économie circulaire. Et finalement, j'ai parlé tantôt des solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire toutes ces façons de repenser la façon de faire fonctionner nos économies. Je vous donne un exemple très, très simple. Il y a une érosion côtière avec la montée des eaux et on le voit chaque année avec les inondations en France, en Angleterre et ailleurs à travers le monde. Mais vous savez qu'une grande raison de ces phénomènes d'inondation et de l'avancée des océans, c'est parce que les écosystèmes, les filao, les mangroves qu'il y avait autour des mers des espaces naturels ont été dégradés par les personnes humaines pour l'exploitation, pour d'autres raisons. Et on se rend compte maintenant qu'il y a un intérêt à remettre en place ces infrastructures écologiques, comme on peut les appeler. Et nous avons estimé l'année passée qu'il y a aujourd'hui 75 millions de personnes qui travaillent dans ces solutions fondées sur la nature. Donc, la réhabilitation des écosystèmes, la protection de la biodiversité, etc. Et donc, ce que je vous montre maintenant, c'est cette idée de l'accord de Paris, mais je vous avais dit déjà qu'il y aura ces 24 millions d'emplois. Les gains, ce sont principalement en Asie-Pacifique, dans les Amériques et en Europe. Par contre, on enregistrerait des pertes d'emplois dans le Moyen-Orient et certaines parties de l'Afrique. Alors, juste une idée de ce qui se fait en France. Il y a l'observatoire, la France a mis en place en 2010, l'Observatoire national des emplois et métiers de l'économie verte, donc qui mesure, qui observe la performance de l'économie nationale en France par rapport à l'économie verte et les emplois verts. Et en 2018, elle a trouvé que la part des emplois verts dans l'emploi total représentait un peu plus de 2% de l'emploi total en France. Donc, c'est un chiffre qui entre plus ou moins dans la moyenne. Hein. Nous sommes vraiment toujours à des niveaux relativement bas d'emplois verts simplement mesurés. Et que de ces emplois, 88% c'était des emplois salariés avec des contrats à durée indéterminée et que 72% des travailleurs étaient des diplômés. Donc, c'est-à-dire que ce sont des emplois avec des niveaux de qualification qui sont assez importants. Et donc, la progression en France, elle a été estimée à un peu plus de 3%. Donc, chaque année, le nombre des emplois verts en France augmente d'à peu près 3%. Alors, j'en arrive à la quatrième partie. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour que nous ayons suffisamment de temps pour notre échange et venir sur la question de la transition juste. Alors, comme je l'ai dit tantôt, les objectifs que nous avons en tant que société, c'est d'améliorer la qualité de l'environnement, que nous puissions tous vivre dans un environnement sain, avec une qualité de l'air, avec des risques qu'on peut éviter, d'une part, et pour ce faire, que nous puissions réduire les émissions de carbone, de gaz à effet de serre, les impacts environnementaux de manière générale. Et ça, c'est l'aspect environnement. Mais du côté social, l'objectif, c'est d'avoir des emplois et des gains qui augmentent. Donc, notre objectif, ce n'est pas de protéger l'environnement au détriment de l'emploi et de l'économie, et ce n'est pas une question de choix. Il est clair que les deux peuvent aller de pair. Et d'autre part, de réduire les impacts qui pourraient être négatifs et les minimiser et les traiter le cas échéant. Alors, pour ce faire, il faut beaucoup plus de cohérence dans ce que font les États, les gouvernements, les entreprises et la société de manière générale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement avoir des objectifs environnementaux et dire qu'on va avoir, on veut contrôler les émissions de gaz à effet de serre pour avoir cet objectif de 1,5% dont vous allez entendre parler souvent dans le cadre de l'accord de Paris et l'agenda climat de manière générale, mais sans avoir des mesures sociales et économiques qui vont permettre cette transformation économique et sociale. Parce que, au final, il ne s'agit pas, comme j'ai dit au départ, d'une question environnementale, mais d'une question d'une transformation économique et sociale. Donc, pour cela, il nous faut bâtir les compétences au niveau des universités, comme le fait qu'on ait beaucoup plus de prise de conscience des questions environnementales et de ce qu'il faut au niveau des compétences dans les différents corps de métiers pour que cette transition écologique puisse se faire. Il faut avoir des mesures de sécurité sociale pour protéger ceux qui risquent de perdre un emploi ou un revenu. Et il faut prendre des mesures de protection en termes de santé et de sécurité au travail. Donc, globalement, ce qu'on veut, c'est quatre composantes d'une stratégie globale en faisant en sorte que ce soit basé sur un dialogue social, que les gouvernements puissent discuter avec l'ensemble de la société de ce qu'il faut faire pour que chacun puisse se retrouver dans l'action de l'État. Et finalement, il faut financer cette transition écologique. Donc, je vais donner juste rapidement quelques exemples et je commence par celui sur les compétences. Alors, pour partir sur cette transition énergétique et une économie circulaire, il faudra une transformation fondamentale des corps de métier. Il nous faut beaucoup plus de techniciens, d'ingénieurs, de conseillers pour changer les modes de production énergétique et dans le bâtiment, dans l'industrie, pour conseiller les entreprises dans l'efficacité, dans l'utilisation des matériaux, comment substituer les différents matériaux pour avoir plus de productivité en termes de ressources. Donc, il y a toute une série de requalifications, de reformations de la main-d'œuvre et des travailleurs qui va être nécessaire. Et donc, nous avons estimé que dans une transition énergétique, il faudrait au moins que 20 millions de personnes soient reformées, qu'il y ait une remise à niveau des compétences pour avoir des techniciens qui pourront travailler dans le secteur de l'hydrogène, dans le secteur des énergies éoliennes, du solaire et donc de toutes les nouvelles technologies qui vont émerger au fil du temps. Et c'est la même chose dans le cadre d'une économie circulaire. Alors, on a aussi essayé de comprendre les types de reconversions qui vont être requis et quels sont les niveaux de compétences. Parce que parfois, on se demande, est-ce que ce qu'il faut pour entrer dans une économie verte, accéder aux emplois verts, ce sont des professions qui sont peu qualifiées? Est-ce que ce sont des professions qui sont moyennement qualifiées ou est-ce que ce sont des professions qui sont hautement qualifiées? Alors, on a vu que la plupart des compétences et des métiers dans lesquels ce besoin de requalification sera nécessaire, ce sont les professions moyennement qualifiées. Donc, dans une transition énergétique, nous avons mesuré que ce sera 16 millions d'emplois et un plus grand nombre dans le scénario d'une économie circulaire. Mais cela veut dire que ce sont des gens comme vous qui êtes à des niveaux d'éducation relativement élevés, donc dans le cycle universitaire, donc les professions moyennement à hautement qualifiées qui vont être beaucoup plus demandées que les professions qui sont peu qualifiées. Donc, c'est vraiment un domaine où les corps de métier qui vont, les institutions qui vont former ces corps de métier moyennement à hautement qualifiés auront besoin de plus de prise de conscience des enjeux écologiques et que vous soyez un technicien, un ingénieur, un conseiller, que vous puissiez avoir ces notions de durabilité environnementale dont nous discutons en ce moment. Et l'autre élément, c'est la protection sociale. Donc, comment faire en sorte qu'on ait des mesures qui octroient des prestations en cas de perte d'emploi pour les chômeurs, ceux qui pourraient se retrouver au chômage, ceux qui pourraient avoir une perte de revenus, comment les accompagner pendant la transition jusqu'à ce qu'ils trouvent de nouveaux emplois. Et je vais venir à un élément qui est aussi important, c'est la prise en compte de la dimension genre dans les emplois verts. Alors, nous nous sommes partis du postulat que dans une économie verte où il y a de nouvelles technologies qui émergent, de nouveaux corps de métier, les disparités de genre qui existent aujourd'hui dans le monde du travail ne vont pas se retrouver. C'est-à-dire que les hommes et les femmes pourraient travailler tous avoir accès au marché du travail, avoir des niveaux de revenus qui soient équitables et ne pas avoir de disparité. Mais on a vu que ce n'est pas forcément le cas. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que dans ce scénario de nouveaux emplois dans le secteur de l'énergie, on a estimé qu'il y aurait à peu près 25 millions d'emplois, mais ici, 19 millions iraient aux travailleurs hommes et seulement 6 millions aux femmes. Alors, la question, c'est pourquoi? Pourquoi il y a dans ces nouveaux emplois du secteur des énergies renouvelables autant d'emplois pour les hommes et seulement 6 millions pour les femmes? Et la raison, c'est que les emplois du futur vont répercuter les compétences et les qualifications qui existent dans certains corps de métier, notamment l'énergie. Donc, je vais vous donner un exemple. Vous savez, en ce moment, en France, il y a une très grande politique de l'État pour encourager les ménages, les propriétaires fonciers notamment, à passer aux pompes à chaleur. Donc, ils sont une façon de se chauffer de manière beaucoup plus écologique. Et donc, il y a des subventions et un appui de l'État. Mais quand vous allez vous inscrire aujourd'hui, il vous faudra attendre assez longtemps, plusieurs mois, avant que des techniciens ne soient disponibles pour venir installer votre pompe à chaleur. Le problème, c'est qu'il y a une déficience, il y a une insuffisance de techniciens qualifiés. Et vous verrez que pour installer une pompe à chaleur, principalement, il faudra de la plomberie et de l'électricité. Donc, c'est des plombiers et des électriciens. Mais vous verrez aujourd'hui, hein, si vous faites le recul vous-même, hein, quand vous avez eu des problèmes d'électricité ou de plomberie dans votre maison ou votre appartement et qu'un technicien est venu, dans la plupart des cas, c'est un homme. Hein. Demandez-vous, est-ce qu'une femme, une jeune femme technicienne ou électricienne est déjà venue chez vous pour fixer un problème électrique ou de plomberie? Ça existe, mais c'est assez rare. Alors, ce qui va se passer, c'est que ces mêmes techniciens électriciens, plombiers aujourd'hui sont ceux qui vont occuper les nouveaux emplois qui émergent, notamment dans des secteurs comme les énergies renouvelables et des corps de métier comme ceux concernés par l'installation des pompes à chaleur. Et donc, ça veut dire que pour qu'il y ait plus d'égalité de genre dans l'économie verte, il faudrait faire beaucoup plus de travail pour essayer d'avoir une plus grande participation des femmes dans certains corps de métier dans lesquels aujourd'hui il y a plus d'hommes que de femmes. Donc, c'est avec cette requalification et dans les métiers techniques notamment qu'on pourra avoir plus de participation de femmes. Alors, je vais aller juste vite sur cette partie hein, pour dire que l'OIT, comme chacune des agences de l'ONU, mène un ensemble de programmes. Nous faisons des études comme celles que j'ai mentionnées tantôt. Nous menons des programmes de coopération technique au niveau des pays pour aider à mettre en place des programmes de développement des compétences dans la formation professionnelle, par exemple. Nous appuyons également les pays dans leur politique climatique, comment prendre en compte les questions sociales et les questions de l'emploi dans la mise en place des politiques sur l'environnement. Et nous avons aussi beaucoup de programmes de formation. Au centre, notamment, il y a un centre de formation de l'OIT qui se trouve à Turin. Et nous avons aussi beaucoup de partenariats avec les États membres de l'OIT, par exemple, dans le cadre du partenariat entre la France et le BIT, qui est un partenariat volontaire dans lequel le gouvernement de la France met à disposition de l'OIT des ressources pour travailler dans des secteurs particulier. Donc, le dernier accord entre la France et l'OIT a concerné 4 secteurs, dont celui de l'environnement. Donc, moi-même, je dirige un programme sur la dimension sociale de la transition écologique avec lequel nous intervenons au Nigeria, en Côte d'Ivoire et au Sénégal pour faire tout ce dont j'ai parlé, comment aider à bâtir ses compétences dans des secteurs qui émergent, comment faciliter le dialogue social sur ces questions environnementales et travail décent. Et finalement, comment faire en sorte qu'on puisse aider les pays à maximiser les opportunités de la transition écologique, créer des emplois verts et minimiser les risques de perturbations sociales. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour l'occasion de pouvoir échanger. Je suis désolé, j'ai un peu parlé plus longtemps que j'avais prévu, mais je vais m'arrêter ici. Et donc, vous pourrez avoir la présentation également si vous souhaitez aller un peu plus en détail sur certaines des informations qu'elle contient. Donc, Stéphane, je vais m'arrêter ici et puis au plaisir d'échanger avec tout le monde.
OK, thank you so much, Mustafa. Do we have questions? Don't be shy. Yes. Can we pass them through? Rose, yeah.
Bonjour. On a pu voir dans votre présentation que la transition énergétique, finalement, allait favoriser les emplois qualifiés et l'Europe dans la création d'emplois. Et il me semble que ce n'est pas forcément très, très égalitaire. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'allier donc, la transition énergétique et un modèle de développement social un peu plus égalitaire.
Oui, merci beaucoup pour cette question. Elle est très pertinente. Oui, tout à fait. Alors, je devrais dire que dans ces analyses que je vous ai présentées, nous travaillons toujours sur la base de scénarios. Donc, nous ne disons que les États ont décidé de faire telle chose dans l'accord de Paris. Si les États le mettre en œuvre dans les systèmes économiques actuels, voici ce que ce sont les conséquences à travers le monde. Et donc, dans ce scénario, vous verrez que les deux régions qui risquent d'avoir certaines pertes d'emplois, c'est le Moyen-Orient et une partie de l'Afrique, mais c'est si ces pays restent dans leur schéma actuel avec une très grande dépendance vis-à-vis des énergies fossiles. Parce que ce sera une situation où ces pays restent dans une énergie fossile alors que le reste du monde souhaite sortir des énergies fossiles. Mais je dois dire que cette étude, elle a été faite en 2018. Donc en 2018, c'était juste après l'accord de Paris, il y avait un engouement pour sortir des énergies fossiles. Mais je dois dire aussi que malheureusement, ce que nous notons aujourd'hui, notamment avec les conflits à travers le monde, la situation en Ukraine, c'est que les gouvernements, même dans les pays qui ont des programmes ambitieux comme l'Allemagne, comme la France, ailleurs, sont obligés de retourner aux énergies fossiles. Donc, nous sommes dans une situation de recul par rapport à l'agenda climatique. Et bon, c'est également la réelle politique, c'est-à-dire que les États doivent faire des politiques par rapport aux situations sociales et économiques du moment. Il y a une perturbation de la fourniture du gaz naturel qui provenait de la Russie et d'autres pays. Et donc, les gouvernements sont obligés de trouver des sources alternatives. Donc, ce qui est vraiment dommage dans cette situation, c'est qu'on s'attendait à ce que cette situation pousse les gouvernements à accélérer la cadence vers les énergies renouvelables. Mais malheureusement, ce qu'on note, c'est qu'il y a plutôt un retour vers le charbon, vers le pétrole et le gaz, et malheureusement, cela n'arrange pas l'agenda climat. Mais globalement, les études qu'on a menées au Nigeria, en Côte d'Ivoire et ailleurs, nous indiquent que c'est possible d'avoir ces deux objectifs, hein, l'inclusion sociale, la création d'emplois et minimiser les pertes économiques et sociales.
Donc, vous plaidez pour une transition écologique, inclusive. Où est-ce que vous passez le curseur entre une planification étatique forte et les mécanismes libres du marché?
Oui, merci beaucoup. C'est une question très importante. Alors, il y a ces deux éléments qui sont fondamentaux, c'est-à-dire que l'État et les gouvernements qui négocient les accords multilatéraux sur l'environnement ont le devoir de donner un sens de direction. Et c'est ce qu'en font ces accords internationaux, de définir des objectifs de politique publique. Mais il y a également un rôle important du marché. Nous sommes principalement à travers le monde dans des économies de marché. Et c'est pour ça que dans l'accord de Paris sur le changement climatique, vous trouverez l'article 6 qui concerne les mécanismes de marché et de non-marché. C'est-à-dire qu'il y a la question de la tarification carbone, il y a la question du rôle du secteur privé. Et donc, à mon avis, et c'est ce que montrent aussi beaucoup d'études, la transformation sociale et économique que requiert le changement climatique ne sera possible que s'il y a un rôle important du secteur privé et des entreprises et des travailleurs. Donc, l'État, son devoir, c'est de mettre en place les cadres facilitateurs, les cadres de politique publique, mais l'action en elle-même, elle ne pourra être faite dans une grande part que par le secteur privé. Et donc, ça nous ramène à cette question de la tarification carbone. Donc, c'est une question toujours en discussion, mais vous savez qu'il y a beaucoup de pays qui ont déjà une tarification carbone nationale, c'est le cas de la Suède, mais aussi le marché interne au niveau de l'Union européenne. Donc, beaucoup de pays se dirigent dans cette direction et ces deux éléments qui sont complémentaires.
Thank you. Any other questions? Maybe one more if anybody's interested. Up on the balcony, no? Yes, there's one more.
Bonjour monsieur, merci pour votre présentation. J'ai une question avec les signes de récession qui apparaissent un peu partout. Pensez-vous que les entreprises et les États ont intérêt à justement mettre en marche cette transition?
Merci, merci beaucoup pour cette question. Elle est également très importante. Alors, la récession en elle-même, c'est un phénomène économique qui n'est pas forcément un ralentisseur de l'agenda environnemental. En fait, je dois dire que le concept d'une économie verte en tant que telle, elle a émergé dans les années en 2008-2009, au milieu de la crise économique et financière. Et l'idée qui est derrière la notion d'économie verte, c'était de dire que dans un contexte de crise économique, de récession, les États et les acteurs économiques, y compris les entreprises, ont une possibilité de relancer l'économie mondiale, pas en faisant ce qu'on faisait avant, mais en innovant et en investissant dans de nouveaux moteurs de croissance économique qui vont générer la croissance, redémarrer les moteurs, mais en même temps faire avancer l'agenda écologique et créer de nouveaux emplois. Donc, c'est pour ça qu'en 2009, au milieu de la crise économique, le programme des Nations Unies pour l'environnement et beaucoup d'autres agences des Nations Unies avaient produit ce rapport connu sous le nom de Global Green New Deal. Alors, le Green New Deal s'était basé sur le New Deal du président Roosevelt pendant la crise aux États-Unis, qui avait relancé l'économie américaine. Mais l'idée ici, c'était de faire un New Deal, mais qui est un agenda environnemental. Et donc, c'est de là que c'est parti, cette notion d'économie verte. Et le PNUE et beaucoup d'autres agences des Nations Unies ont travaillé pendant plusieurs années à montrer et à démontrer économiquement que c'est possible de relancer l'économie en investissant dans la restauration des bâtiments, la réhabilitation des bâtiments, l'efficacité énergétique, les modes de transport durables, et cela pourrait porter une croissance économique. Maintenant, vous me direz pourquoi ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est toujours la problématique. Pendant la COVID, la relance de la COVID-19, certains pays ont essayé de faire cela, de relancer, de faire des plans de relance verte, mais c'est toujours à des niveaux qui sont en deçà de ce qui est, de ce qui est requis. Donc, pour répondre à votre question, je ne pense pas que l'inflation soit en soi un frein à l'agenda écologique. On peut le voir comme une opportunité de relancer la machine en investissant dans d'autres secteurs d'activité économique, mais cela demande souvent un rôle important de l'État pour donner un sens de direction et encourager les entreprises, les consommateurs à pouvoir suivre. Et on le voit dans certaines parties du monde, mais pas partout.
Thank you. We've got one more question from the balcony. Or, yeah, two.
Bonjour. Moi, j'avais une question, c'est comment le BIT, justement, il intervient dans les États qui, justement, peinent d'abord à trouver une stabilité gouvernementale, et comment le BIT dans ces États-là intervient pour que cette transition ait quand même lieu?
Oui, merci beaucoup. Alors, cette question de stabilité gouvernementale, bien évidemment, c'est une question politique beaucoup plus large que la question environnementale et travail décent, la question des emplois verts. Mais comme j'ai dit au départ, une des particularités de l'OIT, c'est d'avoir cette composition tripartite qui, si vous voyez, met ensemble les acteurs de l'économie réelle, ce sont les gouvernements, les entreprises, les travailleurs, et pour pouvoir avoir un dialogue social inclusif. Donc, il y a beaucoup de situations dans lesquelles l'OIT a pu, à travers ce dialogue social, aider à bâtir des consensus. Vous savez, il y a des dizaines et des dizaines de conventions internationales du travail. Certaines de ces conventions concernent les droits des travailleurs, les droits que nous avons nous tous, le congé maternité, par exemple, le congé payé, ce n'est pas tombé du ciel, ce sont des négociations entre gouvernement, travailleurs et syndicats qui ont donné lieu à cette convention. Les conventions sur le congé payé et rémunéré, auxquels nous avons tous droit comme travailleurs, tous ces droits du travail contribue aussi à la paix sociale et à la cohésion. Et je pense personnellement que l'OIT peut, et les Nations Unies de manière générale peuvent faire un peu plus en facilitant le dialogue social au niveau des États, parce que beaucoup des questions de perturbations politiques ont pour base des questions liées au fonctionnement des États, de la démocratie. Et à la base, c'est le consensus social. Les sociétés ne peuvent avancer que sur la base de consensus sociaux basés sur la justice sociale, comme j'ai mentionné au départ. Et c'est la raison pour laquelle l'Organisation mondiale du travail a été créée suite à la Première Guerre mondiale, pour promouvoir la justice sociale comme une base d'une paix durable.
Thank you. Do we have more questions? I think one more on the balcony.
Bonjour. Ma question c'est, est-ce que vous pensez pas que les États qui respectent un certain nombre de contraintes écologiques sont désavantagés par rapport aux autres États? À d'autres États qui respecteraient pas forcément cette contrainte. Et du coup, on peut poser la même question au niveau des acteurs privés. Est-ce qu'un investisseur qui se force à respecter un certain nombre de contraintes écologiques n'est pas désavantagé face à un investisseur qui investit, qui se met pas à ce genre de contraintes et qui peut attendre une rentabilité plus forte? Merci.
Merci beaucoup. C'est une question très importante, tout à fait. Il y a la question de la compétitivité au niveau des entreprises mais également au niveau des États. Et donc, c'est pour cette raison qu'il est impératif de promouvoir déjà au niveau international des accords multilatéraux pour faire face à ces problématiques environnementales, parce que ce sont des problématiques qui concernent tous les États. Et donc, il faudrait que chacun y participe. Et donc, vous voyez par exemple que en 1997, lorsque les États ont négocié le protocole de Kyoto, qui était rattaché à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, et que ce protocole de Kyoto ne visait que les pays industrialisés, les États-Unis, autant, avaient refusé de ratifier le protocole de Kyoto parce qu'il ne concernait pas la Chine ni l'Inde. Et donc, pour eux, c'était une question de compétitivité internationale. Pourquoi les États-Unis allaient faire des efforts de réduire leurs émissions avec potentiellement des coûts économiques, alors que la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud et d'autres pays n'ont rien à faire? Alors, c'est une question beaucoup plus large parce qu'elle est basée, cette approche du protocole de Kyoto était basée sur certains principes politiques que les États avaient négociés en 1992, lorsque la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique était adoptée. Donc, il y avait un certain nombre de principes politiques. Par exemple, le fait qu'il y a une responsabilité historique des pays industrialisés dans l'état de pollution du niveau de réchauffement climatique et que par conséquent, les pays industrialisés devaient être les premiers à faire des efforts. Et donc, il y a aussi cette question d'une responsabilité commune, mais différenciée. C'est-à-dire que chacun des pays membres des Nations Unies, partis à la Convention cadre, a une responsabilité par rapport au changement climatique, mais cette responsabilité elle est différenciée. C'est-à-dire que certains sont plus responsables que d'autres. Donc, tous ces principes politiques ont été négociés. Et c'est sur cette base que l'accord de Kyoto a été négocié. Mais comme vous avez dit, la réalité, c'est que certains pays se disent « nous n'allons pas sacrifier notre économie au détriment, au bénéfice des autres ». Et donc, ça fait que le protocole de Kyoto a connu cette histoire. Et c'est ce qui fait également pour l'histoire qu'en 1995, lorsque l'accord de Paris sur le changement climatique était négocié, les États ont décidé de partir d'un système de, si vous voulez, top-down à un système bottom-up. C'est-à-dire, quand l'accord de Paris était négocié, on a demandé aux États, à tous les pays du monde, de venir avec leurs objectifs d'intention, les intentions de réduction des gaz à effet de serre, qu'il s'agisse du Guatemala, qu'il s'agisse de la Malaisie, des États-Unis, de l'Angleterre, chacun de ces pays est venu en disant « voici ce que je peux faire ». Et voici ce que je peux faire avec plus de coopération internationale. Et donc, c'est cette refonte du système de négociation, parce qu'on a pris les leçons de l'approche Kyoto, qui était un peu top-down, et ça a fait que certains pays se sont dit « nous, on ne va pas le faire, on préfère sortir ». Les États-Unis, l'Australie, d'autres pays ont refusé de ratifier. Et donc, il fallait trouver une modalité qui allait faciliter la participation du plus grand nombre. Donc, c'est déjà l'approche au niveau international. Il faut que au moins tous les grands États responsables et qui ont une capacité de réponse puissent participer. Maintenant, au niveau des entreprises, la question elle est beaucoup plus complexe parce que on peut la voir comme une question de risque de perte de compétitivité, mais il y a de plus en plus d'entreprises qui voient la question écologique comme une opportunité de repositionnement et de gain de compétitivité. C'est-à-dire que logiquement, si vous êtes une entreprise qui utilise de l'énergie et des matériaux dans vos processus de production, plus vous êtes efficient dans l'utilisation de ces matériaux et de cette énergie, moins vous allez en utiliser dans vos processus de production et cela ne va pas impacter votre volume de production de biens et services. Donc, ça veut dire que vous réduisez de manière intelligente, mais cela implique aussi de l'innovation, du développement, la recherche et le développement, mais de manière générale, vous réduisez vos coûts de production et cela vous permet de maximiser vos volumes de production et au final, ça doit se transcrire en chiffre d'affaires beaucoup plus important. Donc, c'est aussi une façon de le voir et on voit aujourd'hui de plus en plus d'entreprises aller dans cette perspective qui est que l'environnement, le climat, ce n'est pas forcément un coût, mais aussi c'est une opportunité de gain en compétitivité et de développement. Alors, la problématique, c'est que cette capacité d'innovation, on la voit beaucoup plus dans les grandes entreprises, les multinationales, mais les petites et moyennes entreprises où il y a la plus grande part d'entreprises à travers le monde qui génèrent des emplois ont beaucoup plus de difficultés parce qu'elles ont moins de ressources financières, moins d'accès aux technologies. Et c'est pour ça qu'il nous faut beaucoup plus d'efforts en ciblant les petites et moyennes entreprises pour permettre d'avoir ces gains de productivité et faire en sorte que la réponse aux défis environnementaux ne soit pas simplement une question de coût économique, mais aussi une opportunité de gain en productivité et d'innovation et de développement.
Do we have another one? Can we have one last question? Mustafa, you have one more? Yeah.
Yes, but sure.
Okay.
Merci. Vous nous avez beaucoup parlé de transition verte, d'énergie renouvelable, d'efficience finalement pour l'énergie. Est-ce que selon vous le nucléaire rentre dedans ou pas? Et quelle est votre posture là-dessus? Est-ce que vous y êtes favorable à titre personnel? Merci.
Oui, merci beaucoup. Alors, c'est une question importante, la question du nucléaire, elle se pose souvent. Alors, ce qu'on sait, c'est que de manière générale, hein, en termes d'impact écologique, l'énergie nucléaire, c'est une énergie qu'on peut considérer comme une énergie propre en termes de ses émissions de gaz à effet de serre. La question principale qui se pose, c'est les risques liés au traitement des déchets nucléaires. Et donc, ça a toujours été la problématique et ça fait que, en fonction des États, mais aussi en fonction des périodes, les énergies nucléaires ont été considérées comme faisant partie des énergies propres et certains iraient même à les qualifier d'énergies renouvelables, alors que d'autres les considéreraient comme ne faisant pas partie des solutions. Donc, c'est pour ça que beaucoup de pays ont un programme et un objectif de sortie à terme du nucléaire. Cela a été le cas de l'Allemagne et d'autres pays. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, les solutions sont aussi basées sur les situations du moment. Vous voyez qu'aujourd'hui, avec la crise énergétique et politique à travers le monde, même l'Allemagne qui avait décidé de sortir de l'énergie nucléaire est en train de revenir à l'énergie nucléaire parce qu'il faut trouver des solutions au gaz et il n'y a pas beaucoup de solutions miracles. Donc, évidemment, les décideurs politiques sont obligés de prendre en compte un ensemble d'impératifs sociaux, y compris la sécurité énergétique. Il faudrait que les populations aient accès à l'énergie. C'est une préoccupation primordiale, même si cela va justifier un retour à des sources d'énergie qu'on avait envisagé d'abandonner. Donc, personnellement, hein, je donne un avis personnel, pas un avis professionnel, enfin, officiel, mais je pense que dans le court et moyen terme, il sera difficile de se passer des énergies, de l'énergie nucléaire, simplement parce que le volume de production d'énergie renouvelable proprement dite avec le solaire, l'éolien, la biomasse et les technologies de conservation avec le développement des batteries pour stocker cette énergie va prendre beaucoup plus de temps que ce qui était prévu et il y a beaucoup de perturbations dans la fourniture de certaines sources d'énergie, notamment le gaz naturel, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, il y a une certaine attitude des États à revenir vers les énergies nucléaires, mais je pense également que il faut un engagement beaucoup plus large des entreprises, de la société de manière générale. Il faut beaucoup plus également en termes d'efforts d'efficacité dans l'utilisation de l'énergie. Il ne faut pas simplement que les politiques pensent à générer davantage d'énergie, de nouvelle énergie. Il y a beaucoup plus qu'on peut faire dans l'efficacité, la réduction de l'utilisation de l'énergie. Et c'est ce que fait l'Agence internationale pour l'énergie et d'autres institutions internationales. Donc, je suis également assez optimiste par rapport aux autres possibilités qu'offre l'hydrogène durable, notamment. Il y a beaucoup de pays qui investissent dans ce domaine, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Namibie et beaucoup d'autres pays. Donc, il faut un peu plus d'efforts. Il faut accompagner les entreprises pour avoir les moyens d'innover. Il faut aussi surtout aider les petits entrepreneurs. Il y en a des centaines à travers le monde qui gèrent de petites entreprises dans le domaine des énergies renouvelables. Il faut un cadre d'affaires beaucoup plus simple qui permette à beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, de vous projeter comme des entrepreneurs dans ces domaines qui sont en pleine croissance. Et tout cela fait partie de la solution. Donc, ce ne sont pas simplement des politiques publiques menées par l'État, mais le gros de la transformation sociale et économique dont le monde a besoin pour faire face aux défis environnementaux va devoir venir des acteurs du secteur privé, des jeunes entrepreneurs qu'on voit à travers le monde qui innovent, mais qui font face à beaucoup de difficultés, de cadre des affaires, de questions de financement et de trésorerie. Et c'est pour ça aussi que nous mettons beaucoup plus d'accent sur la question du financement de la transition juste. Il faut un alignement de la finance. Donc, si les États disent que nous voulons sortir du charbon, des énergies fossiles, il faut aussi que les subventions, les incitations fiscales aillent davantage aux entreprises, aux entrepreneurs, à ceux qui se lancent dans ces domaines pour leur faciliter la chose, en sachant que ce sont aussi des activités qui ont une contribution sociale significative pour nous tous. Et c'est aussi le rôle des politiques publiques et de l'argent du contribuable de contribuer à ce qui bénéficie à la société dans sa globalité.
Mustafa, thank you very much for having shared with us your insights on